Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast, bonne écoute et belle découverte.
Les amants papillons, aux éditions Seuil Jeunesse. Fidèle à son style romantique un peu sombre, Benjamin Lacombe, ici auteur et illustrateur, propose, à l'attention des 10 ans ou plus, une histoire d'amour tragique, un peu trop rapidement développée, mais si magnifiquement illustrée qu'on lui pardonne sa brièveté. La page de garde offre d'emblée un beau découpage qui laisse apparaître une lanterne japonaise autour de laquelle volettent des papillons. Après avoir librement adapté pour les éditions Albin Michel l'histoire de Madame Butterfly, connue par l'opéra de Puccini, Benjamin Lacombe en reprend certains éléments qu'il introduit dans ce conte où les amants maudits peuvent rappeler des couples mythiques tels que Roméo et Juliette, Tristan et Iseult. L'auteur nous propose donc une interprétation du thème d'un amour fou condamné par les traditions familiales et culturelles. Nous sommes au Japon, où la petite Naoko vit une dure épreuve. Naoko sait qu'elle ne reverra pas sa maison avant bien longtemps. L'éducation d'une jeune fille dure au moins 5 années. C'est le temps nécessaire pour connaître l'art de servir le thé, de jouer du luth ou de faire danser les éventails. Et c'est surtout le temps qu'il faut pour savoir se tenir. Car une jeune femme du monde ne doit parler, se lever, s'asseoir, sourire, presque respirer, qu'au moment opportun. Cela ne convient pas à Naoko. Ce qu'elle aime, c'est lire, écrire des poèmes et des haïkus, rire lorsqu'elle est heureuse et pleurer lorsqu'elle est malheureuse. Mais tout cela est interdit à une jeune fille convenable. Avec la complicité de sa servante, elle parvient à suivre les études de son choix, mais sous l'apparence d'un garçon, puisque seuls les hommes ont accès aux cours. Dans les ruelles surpeuplées de la grouillante Kyoto, elle va rencontrer Amo, un adolescent qui apprécie comme elle la littérature et les mathématiques. Tamo et Naoko apprennent à se connaître au fil des semaines. Elle apprécie de plus en plus le temps qu'ils partagent. Les cerisiers lui semblent plus fleuris que jamais, la mangue plus sucrée, et ses poèmes, jusqu'alors si sombres, portent la couleur du bonheur. Naoko se sent simplement heureuse. Amo, lui, n'a jamais connu personne comme Naoko. Il a trouvé quelqu'un avec qui il peut partager bien plus que l'apprentissage de la littérature. Il aime surtout la liberté de son esprit, vif comme la rivière. Il passe souvent des soirées entières à discuter le long des bassins de nénuphars ou à observer les étoiles lors des nuits claires. Et parfois, dans un moment de folie, il s'élance en courant à travers les rues de la ville, chahutant et bousculant les passants, et s'arrête, à bout de souffle, dans un éclat de rire. Les deux amis finissent par s'entraimer, ce qui pose bien des soucis à Amo, persuadée que Naoko est un garçon. Elle qui avait toujours vécu dans son tout petit village loin de tout, comme un tout petit grain de riz dans un grand bol, découvre, loin du carcan de son père, la beauté de la poésie des haïkus et partage ce plaisir avec Amo. La délicatesse des illustrations nous fascine, comme toujours chez Benjamin Lacombe, que je vous ai déjà présenté. Il aime utiliser le noir pour le contraste qu'il offre avec les autres couleurs, allant du rouge vibrant au vert et au bleu profond. Le noir annonce aussi l'approche du drame sur des fonds très sombres, Mais l'héroïne reste lumineuse. Elle n'est pas faite pour vivre tête baissée et mains jointes. Elle est la figure même de la rebelle cultivée. Mais son beau visage mélancolique va se fermer quand elle lit une lettre de son père qui lui ordonne de revenir au village. Il va lui falloir abandonner ses chères études et quitter la chambre qu'elle partageait avec Camo. Elle va surtout devoir quitter Amo. Le message qu'elle lui laisse est en quelque sorte codé. Il s'agit d'un très court poème, un haïku destiné à exprimer en très peu de mots un sentiment, une sensation. Amo va vite en comprendre le sens. Naoko est une fille et elle l'aime. Le cœur battant, il enfourche sa monture et vole vers sa bien-aimée. Au seuil de la porte, il est accueilli par la servante, Suzuki. « Bonjour, servante, je suis Amo Mabushi. Je viens demander la main de la douce Naoko qui m'attend. » « Naoko ne t'attend plus, » lui répond sèchement Suzuki. « Elle est déjà promise et sur le point de se marier. Si tu l'aimes comme tu le dis, ne viens pas troubler son bonheur. » La thématique du mariage forcé n'a certes rien d'original et l'histoire prend un tour dramatique pour vous faire frissonner, si vous voulez. Arrivé à la dernière page, vous ne préfériez suivre des yeux les deux papillons bleus qui virevoltent ensemble au-dessus d'une branche de cerisier en fleurs, comme il se doit.
Le jardin secret de Frances Hodgson Burnett, publié chez Gallimard dans la collection Folio Junior. Publié en 1911 en Grande-Bretagne, classique de la littérature anglaise pour la jeunesse, Le Jardin secret a sans cesse été réédité depuis cette époque. Un film a même été réalisé en 2020. Frances H. Burnett, née en 1849 et morte en 1924, s'est rendue très populaire par ses ouvrages pour la jeunesse, La Petite Princesse, Le Petit Lord Fauntleroy. Elle a longtemps été considérée comme une pionnière du roman d'apprentissage. J'ai lu ce roman lorsque j'étais toute jeune, je l'ai relu adulte et je viens de m'y replonger pour pouvoir vous en parler, avec toujours le même bonheur. Toujours chez Frances H. Burnett, il est question d'orphelins et de la vieille Angleterre, de ses manoirs, de sa lande, de ses gentlemen grincheux et de ses domestiques pleins de bonne volonté. L'histoire démarre en Inde, colonie anglaise à l'époque. Mary Lennox, petite fille délaissée par ses parents, devenue tyrannique et méchante envers les domestiques, voit sa vie bouleversée par une épidémie de choléra. Chapitre 1. Il n'y a plus personne ici. À l'époque où Mary Lennox fut envoyée à Misselthwaite, vivre dans l'immense manoir où son oncle voulait bien la recueillir, on aurait pu imaginer fillette plus vilaine à regarder. Chacun en faisait la remarque. C'était une enfant chétive, avec une petite figure étroite, des cheveux trop fins et d'un blond filasse, et qui affichait en permanence un air sombre et amer, au point de vous ôter toute envie de lui adresser la parole. Elle avait toujours le teint jaune, presque aussi jaune que ses cheveux, car le climat était si chaud aux Indes où elle avait grandi qu'elle ne s'était jamais vraiment bien portée. À cette époque, les Indes étaient sous domination britannique. Son père y occupait des fonctions importantes auprès du gouvernement. De faible constitution, lui aussi, c'était un homme extrêmement accaparé par son travail. Sa mère était remarquablement belle. Son seul et unique souci était de se rendre dans des soirées et d'y passer d'agréables moments en bonne compagnie. Elle n'avait jamais désiré d'enfant. Peu de temps après la naissance de sa fille, elle s'en était déchargée en la confiant à une aïa, c'est-à-dire à une nourrice. On lui avait fait comprendre que si elle voulait plaire à la Men Sahib, il valait mieux maintenir autant que possible, loin de sa vue, l'enfant. Bébé malingre, morveux, grincheux et pleurnichard, Marie grandit ainsi à l'écart. Et quand elle commença à trotter, toujours aussi grincheuse, aussi chétive, aussi pleurnicharde qu'auparavant, sa situation ne changea pas. Par la suite, quand Marie se rappelait sa petite enfance, elle n'avait d'autres souvenirs que les visages à la peau brune de l'Aïa et des domestiques. Ceux-ci avaient si peur que la même Sahib ne s'irritât des pleurs de l'enfant que chacun trouva vite plus facile de lui passer tous ses caprices. On devine aisément la suite. Marie n'avait pas 6 ans qu'elle passait aux yeux de tous pour le tyran domestique le plus intraitable qui soit. La jeune gouvernante anglaise venue pour lui apprendre à lire la trouva si détestable qu'elle ne resta pas plus de 3 mois. Et aucune de celles qui suivirent ne put la supporter aussi longtemps. En fait, si Marie n'avait pas eu le goût des livres, elle n'aurait sans doute jamais su au plus du tiers de l'alphabet. Par une matinée, à la chaleur accablante, elle allait avoir 10 ans, elle s'éveilla de mauvaise humeur. Et cela empira encore quand elle vit une femme inconnue assise auprès d'elle, à la place de son aïa. « Que fais-tu là, toi ?» lui dit-elle. « C'est pas toi qui dois t'asseoir là. Où est mon aïa ?» La femme semblait effrayée, mais ne bougeait pas cependant. Marie entra dans une violente colère, donna des poings et des pieds, mais rien n'y fit, la femme restait là, et de plus en plus effrayée, répétant sans cesse « Non, non, l'aïa ne peut pas venir auprès de la mamzelle Sahib. » Ce matin-là, rien ne se déroulait selon l'ordre habituel. La plupart des domestiques indigènes semblaient avoir disparu. Les autres lui lançaient des regards fuyants en passant devant elle. Il s'éloignait à pas furtifs, l'air hagard et terrorisé. Personne ne lui adressait la parole. Et l'aïa ne venait pas. Un peu plus tard, on la laissa complètement seule. Elle attendit un long moment, puis ne voyant rien venir, elle fit quelques pas dans le jardin et se résolut à jouer toute seule à l'ombre d'un arbre. Elle imaginait qu'elle dessinait un parterre de fleurs. Elle moulait des petits pâtés et y plantait de grandes fleurs rouges qu'elle cueillait sur un hibiscus. Pourtant, tout en jouant, elle enrageait. Elle marmonnait des insultes qu'elle préparait pour accueillir l'aïa, Saïdi, à son retour. « Cochonne, cochonne, fille de cochon !» Car il n'existe pas pire offense pour un domestique indigène que de s'entendre traiter de cochon. Grinçant des dents avec méchanceté, elle ressassait ses invectives quand des voix lui parvinrent de la véranda. Sa mère s'avançait en compagnie d'un jeune homme blond. Ils parlaient tous deux d'une voix assourdie, comme s'ils craignaient d'être entendus. Ce n'était pas la première fois que Marie voyait cet homme blond aux allures d'adolescent, un tout jeune officier fraîchement débarqué d'Angleterre. Elle le fixa un moment, mais à vrai dire, c'était sa mère qu'elle regardait intensément. Elle la voyait si rarement. Et avec ses cheveux soyeux, ses beaux yeux, où dansait toujours une étincelle joyeuse, son nez si fin, un peu froncé et dédaigneux, la même Sahib, Marie, elle aussi appelait ainsi sa mère, la même Sahib était très séduisante. Ses vêtements étaient si légers, brodés de si jolies dentelles qu'elle paraissait flotter. Ses yeux étaient sombres ce matin-là. C'était la peur qui se lisait dans le regard implorant qu'elle adressait au jeune homme blond. « Ça serait vraiment si grave que ça? Dites-moi, dites-moi, je veux savoir !»« Oui, c'est très grave, Madame Lennox. Plus que cela, c'est terrible. Vous auriez dû gagner les collines il y a 2 semaines. » La même Sahib, nerveuse, se tordait les mains au point qu'on entendait craquer ses doigts. « Je le savais bien, je m'en doutais. Quel insensé j'ai été. Restez pour cette stupide soirée !» À peine avait-elle parlé que des gémissements leur parvinrent des cabanes des domestiques, des lamentations si terribles qu'elle agrippa instinctivement le bras du jeune officier. Marie, cachée derrière son arbre, frissonna des pieds à la tête. Les lamentations redoublèrent. « Qu'est-ce qu'il y a? Mais que se passe-t-il » « On pleure un mort, » répondit le jeune officier. « Un domestique, sans doute. Ils sont donc atteints, eux aussi. Vous auriez pu me le dire. Mais je ne le savais pas, voyons. » Elle fit volte-face rapidement. « Suivez-moi, venez, venez vite !» Sur ces mots, ils gagnèrent dans la hâte l'intérieur du bungalow où Marie les vit disparaître. Par la suite, Marie comprit les raisons de tous ces mystères. Une épidémie de choléra s'était déclarée soudainement sous sa forme la plus grave. Les hommes mouraient comme des mouches. C'était bien l'aïa qu'on pleurait dans les cabanes des domestiques. Touchée dans la nuit par le mal, elle venait de décéder. On dénombrait 3 autres morts dans les cabanes des domestiques. Certains avaient pris la fuite, la panique grandissait. Dans la terrible confusion qui régna tout le jour suivant, Marie resta tapie dans son coin, à l'écart, dans la nurserie. Personne ne pensait à elle, personne ne venait la chercher. Elle ne comprenait pas grand-chose au remue-ménage alentour. Elle passait son temps à pleurer, puis à dormir. On va enfin, tout de même, informer Marie de la mort de ses parents. Elle sera d'abord recueillie par un pasteur anglais, père de 5 jeunes enfants, chez qui elle se montrera particulièrement capricieuse et désagréable. Puis, on lui annonce qu'elle va prendre le bateau pour aller vivre en Angleterre, chez son oncle Archibald Craven. L'intendante de la propriété, Madame Medlock, vient la chercher à la gare de Londres. Madame Medlock, avait-il dit d'une voix froide et sèche, le capitaine Lennox et son épouse sont morts, une épidémie de choléra. Le capitaine Lennox était le frère de ma femme, je suis donc tuteur de sa fille. Demain, vous partirez pour Londres, vous ramènerez l'enfant ici. Madame Medlock n'avait plus eu qu'à boucler sa petite valise. Dans le compartiment de chemin de fer, Marie s'assit dans un coin, affichant une moue chagrine. Elle n'avait rien à lire, même pas un livre d'images, et elle avait croisé ses petites mains gantées de noir sur ses genoux. Sa robe, noire elle aussi, faisait ressortir son teint jaune. Quelques mèches de cheveux filasses débordaient du chapeau de crêpe qui couvrait à demi son front. « Eh ben, ça promet d'être gai, » pensa Madame Medlock en poussant un profond soupir. « Je n'ai encore jamais vu de ma vie une fillette à l'air plus renfrognée. » Madame Medlock était originaire du Yorkshire, où la plupart du temps, les enfants sont gais et débordants de santé. Au bout d'un moment, lassée de regarder Marie, elle se résolut à engager la conversation et dit, avec un entrain forcé, « Je ferais mieux de te dire où on va. Tu sais quelque chose sur ton oncle ?»« Non, rien, » lui répondit Marie. « Tes parents ne t'ont jamais rien dit à son sujet ?»« Non, rien, » lui répondit Marie. Elle fronça les sourcils. Jamais son père ni sa mère ne lui avaient parlé de quoi que ce soit. Pourquoi lui aurait-il parlé de son oncle ?»« Tout ça, Madame Medlock. » Elle se tut un instant, dévisageant le curieux petit phénomène impassible sur la banquette. « Malgré tout, il y a une chose qu'il vaut peut-être mieux que je te dise, pour te préparer, » reprit-elle. « Il faut que tu le saches, tu vas dans une maison bizarre. » Marie ne réagit pas. Madame Medlock en resta bouche bée. Elle reprit son souffle pourtant et poursuivit sur sa lancée. « C'est certainement une belle, une somptueuse demeure, mais sombre et mélancolique. Monsieur Craven en est fier, à sa manière, et ça se comprend. La maison est située en bordure de la lande et elle est vieille de 600 ans. Elle compte plus d'une centaine de pièces, inoccupées pour la plupart, condamnées ou fermées à clé. À l'intérieur de la maison, il y a toutes sortes d'objets qui remontent à la nuit des temps, des tableaux, des meubles anciens. Dehors, un parc immense avec des pelouses, des jardins, avec des arbres aux longues branches basses qui descendent jusqu'au ras du sol. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Elle fit une pause. Mais il n'y a strictement rien d'autre à en dire, acheva-t-elle brusquement. Marie ne pouvait s'empêcher de l'écouter attentivement. C'était si différent des Indes et tout nouveau pour elle. Ça ne l'empêchait pas, cependant, de feindre l'indifférence ainsi qu'elle en avait l'habitude. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» lui demanda Madame Medlock. « Rien du tout, » répondit Marie. « Je ne connais rien à ce genre d'endroit. » Madame Medlock eut un rire bref. « Tu es une vraie petite vieille avant l'âge. Ça t'est vraiment égal ?»« Que ça me soit égal ou non, ne changera rien, de toute manière. » De nouveau livrée à elle-même, Marie va partir à la découverte de l'immense domaine de son oncle. En explorant la propriété, la petite fille trouve par hasard, avec l'aide d'un rouge-gorge, la clé d'un jardin délaissé de tous. Et là, le monde bascule pour l'enfant. Marie découvre son royaume secret, qu'elle aime tant qu'elle s'y rend tous les jours. Guidée par une jolie musique de pipeau, elle rencontre un jour un jeune garçon nommé Deacon, qui sait étonnamment parler aux animaux. Elle va également faire la connaissance d'un autre jeune garçon, Colin, malade et perpétuellement alité. Trois enfants, un jardin, un secret. Des drames, bien sûr, mais aussi de l'espoir, des rires, la joie enfin retrouvée. Le jardin secret est une ode à la nature, à l'amitié et à la magie de l'enfance. Ne vous en privez pas, n'en privez pas vos enfants. À partir de 10-11 ans.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire https://lireetfairelire.laligue10.org 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.